Et alors, l'organisateur du débat essayait de faire dire aux enfants israéliens quel était leur programme pour la solution du problème israélo-arabe. Alors, puisque l'ONU ne s'en sort pas, puisque les grandes puissances ne s'en sortent pas, peut-être que la solution va pouvoir être inventée par les petits-enfants des classes de 7e et de 6e et de 5e des écoles israéliennes. Et j'étais absolument stupéfait de ce qui s'est dévoilé là, de la qualité d'identité de ces gosses. Ils avaient été pris intentionnellement dans des écoles de différents partis idéologiques. Il y avait des datim plus, des datim moins, des losatim moins et des losatim plus. Mais cette espèce de réaction, hein, de bonne santé mentale, je vais essayer de vous décrire une des impressions que j'ai eues, c'est absolument fantastique. Tout ce qu'ils disaient était utopique, irréel, angélique. Hein. Bon, et bien c'est très simple. On a fait de la peine aux Arabes parce qu'on leur a pris notre pays, alors on va leur rendre le plus possible, à condition qu'ils mettent leur signature vraiment, qu'ils signent vraiment sur un contrat comme quoi il y a la paix. Je ne sais pas si vous imaginez que des gosses d'une telle société, après tout ce qu'a été l'histoire des juges jusqu'à présent y compris, réagissent de façon aussi spontanée à ce niveau-là, alors c'est vraiment qu'on a réussi. Vous comprenez ? Si on devait utiliser politiquement, pratiquement les solutions proposées par ces gosses, on va leur rendre tout pour leur montrer notre bonne volonté. Il y a même un gosse qui a dit oui, mais pas Tel Aviv quand même. seulement à condition qu'ils signent. Vous voyez, vous comprenez l'envergure de la chose. Voilà, c'était absolument angélique, mais c'est l'indice qu'effectivement l'identité juive a réussi. Si les gosses israéliens aujourd'hui réagissent comme ça, bon, nous avons gagné la paix. La guerre, c'est plus facile. Et une deuxième remarque, le présentateur du débat a posé la question suivante: est-ce que tu serais disposé à avoir un ami arabe de ton âge? Alors tous ces gosses-là, spontanément, c'est une chose qui va de soi, Lamalo, Mouham, bien sûr, c'est un homme, ah oui, mais à une condition, c'est qu'ils ne viennent pas avec un couteau dans la poche. À ce niveau-là, bon, alors c'est sûr que la moralité a réussi en Israël à l'échelle de l'identité collective, à l'échelle du peuple. Et c'est vrai, parce qu'on a maintenant, c'est vrai depuis tout. Et donc, la dimension de l'échec, celle qui implique la nécessité d'un légalisme casuistique, concerne l'individu. Et c'est le thème qui va nous occuper. Est-ce que c'est bien clair, hein? Je vous résume très brièvement ces deux premières données. Lorsque nous lisons la manière dont dont est donnée la formulation des lois du Sinaï, nous nous apercevons que c'est en même temps une charte, mais en même temps aussi une description d'identité. Si tu es Israël qui reçoit cette loi, alors voilà comment tu seras au futur. C'est une promesse, tu seras tel que tu n'adoreras pas d'idole, tu ne tueras pas, etc., etc. Est-ce que c'est bien clair? C'est la notion de Bessora. Et puis, deuxièmement, cette carte d'identité concerne un peuple, et il est inévitable qu'à l'échelle du peuple, il y ait bien entendu cette dimension de l'échec par rapport à ce niveau de description, mais la dimension de l'échec est à l'échelle individuelle. Voici comment le problème est posé, et nous allons donc maintenant commencer cet exégèse pour comprendre cette notion qui nous vient du Shlah, de la fonction rédemptrice du légalisme, c'est-à-dire le détail de la loi tel qu'il va s'appliquer au niveau de la vie de la cité a pour objectif de récupérer à l'échelle individuelle les identités qui n'ont pas été capables d'être à la hauteur de la manière dont la Torah décrit avec les 10 commandements, décrit l'identité d'un Israël réussi. Voici ce qui se passe. Immédiatement, dans l'ordre des chapitres, immédiatement après le chapitre 20, de la paracha de Yitro, dans la paracha de Yitro nous trouvons les 10 commandements, nous avons à partir du chapitre 21 la sidra de Mishpatim. Et je vous rappelle, pour ceux qui suivent les cours du PH, que nous avons choisi cette année comme programme d'ensemble des différents secteurs d'études traditionnelles et de pensée juive une réflexion sur les organisations et les structures de la société hébraïque, et en particulier ce problème des Mishpatim, c'est-à-dire de la nature et de l'autorité des tribunaux et du juge en Israël. Bref définition linguistique, mitzvah, la mitzvah que nous traduisons par le commandement, en hébreu cela signifie la description du projet de la volonté du Créateur tel qu'il se révèle dans la loi. Les mitzvot, c'est les objectifs à atteindre. Les mishpatim, mishpat, qui signifie aussi loi, les mishpatim, c'est la manière pratique, donc légale, de réaliser, les moyens de réaliser ces objectifs décrits par les mitzvot. Je donne un exemple simple. Voici une des mitzvot de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si nous traduisons ainsi approximativement. Bien, ça c'est une mitzvah, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a à réussir. Cette mitzvah implique toute une quantité de mishpatim, parce que, et ceci dit, comment faut-il faire pour arriver à résoudre ce problème d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà la différence qu'il y a entre mitzvah et mishpat. Et alors, cet étonnement que nous avons, c'est de voir immédiatement, après la description des 10 commandements du Sinaï, une législation de légalisme pur, formellement pur, qui apparaît immédiatement. Ve'ele amishpatim asher tasim lifneihem. Alors que les 10 commandements ont été donnés, c'est-à-dire voici la finalité d'identité morale à atteindre, et sous-entendu, maintenant que vous savez qui est l'homme réussi, débrouillez-vous de rejoindre ce modèle, de réaliser ce modèle. Nous voici que la Torah revient sur le problème de la révélation de la loi et dit ceci, et voici les mishpatim, et de surcroît, ve'ele. Et en plus, voici les mishpatim, voici les lois, sous-entendu de détail, asher tasim lifneihem, que tu leur proposeras. Dieu s'adresse à Moïse en disant, voilà, tu as donné l'essentiel de la loi, les 10 commandements, et voici maintenant les mishpatim qu'il faut leur proposer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière propre à Israël de réaliser la stratégie politique à l'intérieur de la vie de la cité, de telle sorte que les objectifs de la moralité soient atteints et soient réalisés. Nous verrons que le principal étonnement concerne l'exemple qui est donné. La première des lois, sous forme de mishpat, qui est proposée à Israël, est la suivante. Qui tikne eved ivri, lorsque tu acquerras ou tu achèteras un esclave hébreu, shesh shanim ya'avod, ou bashevi, c'est la chopshi chinam. Pendant 6 années, il travaillera, et la 7e année, il sortira libre, sans dédommagement, sans avoir à racheter sa liberté. Et il faut bien percevoir l'étonnement à la lecture de ce premier exemple. Alors que l'on vient de décrire la charte de libération de toute aliénation, quelle qu'elle soit, Israël vient d'être libéré de l'esclavage en Égypte, la Torah lui est donnée, et par conséquent, il est par définition décrit comme étant l'homme libre de cette liberté qui permet la réalisation des valeurs morales, enfin dégagé de toute aliénation, quelle qu'elle soit. Et voilà que la première éventualité du texte biblique dans Mishpatim, c'est « Et lorsque tu acquerras un esclave hébreu ». Est-ce que vous comprenez bien la difficulté? D'où sort cet esclave hébreu? Il n'y en a plus. Et il ne doit plus y en avoir. À la rigueur, si la législation de la Torah devait prévoir le cas de l'esclave hébreu, ce serait en fin de texte, ce serait à la fin. Il faut d'abord que nous apprenions qu'Israël doit être organisé de façon politique dans la vie de la cité, que par conséquent il y aura une constitution, qu'il y aura donc des tribunaux pour juger de la relation entre l'identité et la constitution, et que s'il y a échec, il risque d'y avoir, par violation de la constitution, il risque d'y avoir donc l'esclave hébreu, et alors en fin de compte, qu'on nous apprenne à la fin de la Torah quel sera le statut de l'esclave hébreu. Je m'explique. Il y avait deux sortes de dispositions concernant ce que je vous traduis par esclave, parce que les dictionnaires traduisent ainsi, mais Eved, ça veut dire serviteur, ça veut dire domestique, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas capable de gagner sa vie par lui-même et qui travaille chez quelqu'un d'autre pour pouvoir gagner sa vie grâce à l'abri de la responsabilité sociale de son employeur. Le Eved de la Torah, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui, même pas seulement le prolétaire, mais tout simplement celui qui travaille chez quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, nous sommes tous des avalim, puisque nous dépendons d'un patron. Le fait de dépendre d'un patron, c'est ça, Eved, dans la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense qu'on peut préciser de la manière suivante, à la manière d'un certain nombre de commentateurs, c'est que, au fond, le fait d'être Eved, c'est le fait de ne pas disposer de son emploi du temps. Le fait d'être soumis à un horaire qui dépend de la volonté de quelqu'un d'autre, et c'est tout simplement ça, être éveillé. Vous comprenez pourquoi il m'arrive si souvent de me libérer de l'emploi du temps. Bon, je reviens au problème. Certainement, ça plonge dans quelque chose de psychologiquement très profond. Le fait d'être soumis à l'horaire, c'est le bagne. Voilà, revenons au problème. Il y avait deux cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque quelqu'un délibérément a violé la loi. Par exemple, je n'ai pas suffisamment de quoi manger, alors je prends à quelqu'un d'autre. Sanction, eh bien la sanction prévue par la Torah, c'est que je vais travailler chez ce quelqu'un d'autre jusqu'à rembourser la dette que j'ai contractée par le vol. Est-ce que c'est bien clair? Voilà la première forme du Evet Ili, celui qui est condamné par le tribunal à être travaillant chez celui à qui il avait porté le vol pour éteindre sa dette. Bien. Le deuxième cas du Evet Ili, c'est celui qui pressent que ça va lui arriver, qui pressent qu'il est dans le besoin, alors avant de risquer de violer la morale en volant, quitte à se faire condamner pour un excès, eh bien, il va au bureau de placement et il s'engage comme domestique. Alors, dans les deux cas, il est délivré. Mais dans le premier cas, il a été condamné par le tribunal à travailler dans le statut du prolétaire, si vous voulez. Dans le deuxième cas, c'est lui qui a pris l'initiative de se vendre lui-même afin de ne pas avoir à risquer de violer la loi morale. Et par conséquent, on comprend pourquoi le statut politique et juridique du deuxième cas va être supérieur à celui du premier cas. Lorsque c'est le tribunal qui a condamné, il y a une sorte de diffamation qui s'attache, enfin de disqualification qui s'attache à ce cas. Tandis que celui qui s'est vendu lui-même, enfin qui s'est placé lui-même chez quelqu'un d'autre, eh bien a donné au moins ce témoignage de la bonne foi quant aux valeurs morales. Je ne veux pas risquer d'en arriver là à la violation de la Constitution, et par conséquent je prends les deux ordres. Mais quoi qu'il en soit, dans l'un comme dans l'autre cas, cette disposition de la loi selon laquelle il peut arriver cela, qu'existe l'éventualité d'un Evet Ili, devait être citée à la fin de la loi. Je reprends le raisonnement. Voici ce que Moïse dit à Israël. Vous êtes destiné à être peuple de prêtre, c'est-à-dire à porter le témoignage, en hébreu ça veut dire dire. Apporter le témoignage de la moralité réussie. Et voilà votre charte de moralité réussie, c'est les 10 commandements. Et maintenant, débrouillez-vous. Si vous savez comment il faut le réaliser, alors c'est que vous êtes Israël. Si vous ne savez pas comment il faut réaliser la morale réussie, c'est que vous n'êtes pas Israël. Est-ce que c'est bien clair? Par conséquent, il faut s'attendre à ce que Israël aura en fin de compte une constitution qui a pour objet, donc un légalisme, qui a pour objet l'incarnation dans la vie quotidienne de la charte des valeurs morales. Et par conséquent, si Israël doit avoir une constitution des Mishpatim, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait le risque de l'échec dans la dimension de l'individu, et il faut donc prévoir la récupération des individus. Et donc, finalement, l'ordre des enseignements dans la Torah redevient normal. Moïse sait qu'Israël, nanti de cette charte de moralité qu'est les 10 commandements, la Torah au niveau des 10 commandements va entrer dans la vie tout court. Il va entrer dans la vie tout court, inévitablement, il y aura des échecs. Alors c'est d'abord de l'échec qu'on s'occupe. Vous voyez, immédiatement, c'est l'éventualité directe de l'échec le plus grave qui va être cité comme exemple des Mishpatim. C'est-à-dire, et s'il arrive cela, qu'un individu en Israël échoue au niveau de la liberté morale, alors récupère-le. C'est là que la Torah intervient. Sache que tu n'as le droit, au nom de la Torah, de ne l'employer que pendant 6 ans, et la 7e année, il faut que tu le libères. Vous voyez comment la Torah, ici, intervient dans le sens d'une opposition aux intérêts de la société. Il n'y a pas ici des lois de justice sociale dans le sens banal du terme, parce que dans le fond des choses, c'est une injustice sociale que d'obliger le patron à libérer son employé, enfin son esclave, la 7e année. Ça, c'est la volonté de la Torah. C'est-à-dire, que se passe-t-il? Les individus ne sont pas capables d'être des hommes libres. Eh bien, la Torah va intervenir pour briser cet ordre de la justice sociale qui voudrait qu'il y ait des patrons et des employés. C'est intentionnellement que je présente cela sous forme paradoxale, parce qu'il y a une erreur de jugement. On croit que cette législation de la Torah est d'ordre socialiste, je veux dire que son principe est au nom de la justice sociale. Il semble qu'il y a là une finalité beaucoup plus profonde. La justice sociale réclame qu'il y ait des forts et des faibles. Elle réclame qu'il y ait des hommes qui réussissent et des hommes qui échouent. Mais la Torah est contre, parce qu'il faut récupérer les individus. Est-ce que c'est bien clair, hein? dans l'ordre de la justice, des critères de la société, eh bien, celui qui a échoué dans le propos, dans le projet d'être libre, devrait être normalement condamné à être aliéné à quelqu'un d'autre. Mais la Torah intervient et dit, pas question, il faut le libérer malgré tout. D'où toute une stratégie pédagogique, on place l'homme qui n'avait pas été capable d'être libre chez un homme libre pour qu'il fasse l'apprentissage de la liberté. Et à la septième année, au moment de la Shemitah de la septième année, ce tuteur qu'il avait doit le libérer en lui donnant d'ailleurs une dot comme produit de son travail, c'est-à-dire il doit le remettre en selle au niveau de la société des hommes libres. Alors on comprend bien pourquoi c'est cet exemple de l'échec ultime qui est pris comme premier exemple des lois dites sociales que la Torah introduit. Eh bien, lisons Rashi à ce sujet. Ve'ele ha-mishpatim, Rashi cite le Midrash, qui dit ceci, kol makom she'ne'emar ele, dans tout endroit dans le texte où un enseignement est précédé par l'expression ele, c'est-à-dire voici, pisel et arishonim. Cela disqualifie les enseignements précédents. Alors, je vous explique d'abord cela. En hébreu, pour dire voici, on se sert aussi du pluriel du mot zé, ceci, elle est au pluriel, ceci au pluriel, ce sont des choses qui, elle introduit cette idée de désignation des enseignements qui viennent, qui apparaissent à un certain moment du déroulement de la révélation. Mais parfois nous trouvons dans le texte VL, et voici. C'est-à-dire, il y a la lettre V, VAR, qui désigne la conjonction. Donc on peut avoir deux expressions, soit ELE, voici, soit VELE, et voici. Un principe du Midrash dit ceci.